Chapitre 9.
J'aime vraiment l'ambiance du mariage.
Je m'y sens bien. Il y a du monde, ça grouille de vie, de sourires, de paroles échangées de mille façons différentes. J'adore les façons différentes.
Les invités ont l'air contents.
Certains se retrouvent, d'autres se découvrent. J'en ai d'ailleurs vu deux qui se découvraient de très près derrière l'annexe. À un moment, j'ai cru que chacun avait quatre mains tellement ils se les baladaient partout en s'embrassant comme des affamés. Ça m'a fait drôle d'ailleurs. Je ne me rappelle pas avoir vécu ce genre de situation. Est-ce parce que l'info est perdue dans mon disque dur défaillant ou parce que je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est vraiment fan de moi? Sinon, les gens ne manquent de rien. Personne ne travaille avec une pelle ou des choses lourdes. Il y a de quoi manger et boire, et plus de chaises que de derrière. Mon frère est beau, et je le trouve très courageux d'épouser une allergique aux moustiques. Les gens semblent déstabilisés lorsqu'ils me croisent. Ils évitent d'avoir affaire à une personne avec un corps d'adulte qui se comporte comme une enfant. Parce que j'ai compris que je suis une adulte, mais qu'à cause de ma mémoire abîmée, j'ai des réflexes infantiles. C'est le terme officiel, même si les gens le prononcent comme un secret quand je risque d'entendre. À moins que ce ne soit mes vêtements qui provoquent leur réaction. Pourtant, franchement, je ne vois pas qui peut me donner des leçons, étant donné ce que d'autres portent. J'ai vu des tenues épouvantables. Il y a notamment une dame avec une robe couverte de taches de couleur informes. C'est pas de la haute couture, c'est de la basse peinture. Ou alors, elle a pris la raclée de sa vie au paintball. Les motifs de sa robe m'attirent autant qu'ils me repoussent. Je suis incapable d'en détacher mon regard. J'y vois une tête de mort, un chat qui fait pipi debout et des chaussures en feu. Ça me fait peur. Je m'amuse beaucoup. Davantage avec les invités de mon âge mental qu'avec ceux de mon âge biologique. On a joué à cache-cache. Mais ça s'est mal fini parce que Mélanie s'est aperçue que j'avais vidé les deux saladiers de bonbons réservés aux enfants dans mes jambes de pantalon de ski. Elle m'a accusée d'être une égoïste. C'est faux. J'en avais laissé six au fond. Quand j'ai compris que j'allais encore me faire gronder, je me suis enfuie en zigzagant pour que les adultes ne puissent pas m'attraper. Ce qu'ils ont d'ailleurs essayé de faire. Ils sont tellement prévisibles. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils courent moins vite que nous, les petits. Forcément, dans ma cavale, j'ai perdu pas mal de bonbons, mais c'était le prix à payer pour garder ma liberté. Je suis jeune dans ma tête, mais je sais déjà qu'il faut se battre pour préserver les grands idéaux. Les bonbons en font partie. Maintenant que la nuit est tombée, logiquement, je suis un peu fatiguée. C'est normal, je ne suis pas une chauve-souris gardienne de phare. Je me suis installée dans un endroit en retrait de l'agitation, assise sur la balustrade de pierre qui borde la terrasse. Je balance mes jambes. J'adore. À côté de moi, il y a une petite fille qui fait exactement pareil. Je déteste. Depuis le début de l'après-midi, elle me suit partout et copie tout ce que je fais. Elle ressemble plus à un animal de compagnie qu'à une copine. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est vrai que je suis super grande pour mon âge mental. À travers les hautes fenêtres de la salle de bal, je vois les gens qui dansent, dans des lumières colorées qui font mal aux yeux. Ils se dandinent et s'amusent. Mais pas uniquement. J'ai constaté un phénomène étrange. Lorsque la musique est vive, les individus mâles ou femelles gesticulent et se tiennent à l'écart les uns des autres, sans doute pour ne pas risquer de se prendre un coup, tant leurs mouvements sont énergiques. Par contre, quand la musique est lente et que la lumière baisse, ils se collent à leur partenaire. Peut-être parce qu'ils ont peur de se perdre dans le noir, ou de tomber. Ils s'accrochent alors les uns aux autres par tous les bouts. un peu comme les extraterrestres à plusieurs mains derrière l'annexe. Pour vous dire, j'ai vu une jeune femme qui tenait carrément les fesses de son compagnon. Pourtant, elle n'avait pas l'air de vouloir se sauver. Au cours de la journée, j'ai appris à identifier quelques personnes. Mon frère qui s'est marié, sa femme, et puis un autre frère, Antonin, encore plus jeune, que j'ai découvert voilà 3 heures. C'est fou ce que j'ai comme frère et sœur. Quand j'ai posé la question à Lucie, elle m'a expliqué que j'avais des frères et sœurs de cœur, comme elle, Mélanie et pas mal d'autres, et 2 frères de sang. C'est terrible. J'espère qu'il n'y a pas eu de meurtre parce que ça fait quand même terriblement boucherie tout ça. Frère de sang, sœur de cœur, ça sent le carnage à la hache. Quand j'ai demandé à Lucie pourquoi on les nommait ainsi, elle m'a juste répondu que l'on n'avait pas encore inventé les frères de poumons, mais qu'en revanche, il existait des têtes de cul. Je sens que ça va bien m'aider à me reconstruire. N'empêche, je suis contente d'avoir des frères. Ils sont gentils avec moi et je les trouve grands et forts. Tous les autres invités, ou presque, sont des inconnus. Je ne sais rien d'eux. Je les observe donc sans a priori. En fait, ils ne se définissent qu'à travers leur apparence ou leur comportement. J'observe les liens qu'ils entretiennent entre eux ou avec moi. Certains s'approchent très près pour me parler et souvent m'embrassent. Je présume alors qu'ils me connaissent. D'autres respectent une certaine distance. Et puis il y a bien sûr la gentille mamie qui me fuit carrément depuis que je lui ai demandé de l'argent. Pourtant, j'avais dit s'il te plaît. Lucie dit que la vraie vie ne ressemble pas à ce qui se passe pendant un mariage. Dommage. Elle m'a raconté qu'il y a même des gens qui se sont jurés de vivre toute leur vie ensemble et qui ne le font pas. Ils arrêtent, se quittent, parfois brutalement, en se disant des choses très méchantes qui ne correspondent pas toujours à ce qu'ils pensent au fond d'eux. Je trouve ça triste. Elle n'a pas voulu m'en dire plus parce que je suis trop petite. En tout cas, aujourd'hui, les gens s'aiment et sont ensemble pour un heureux événement. Mélanie m'a confié qu'elle trouvait le mariage très réussi. Elle m'a longuement raconté que, parfois, les mecs se marient parce qu'ils considèrent qu'une femme, la plus belle possible selon ce qu'ils ont les moyens d'attraper, fait partie de la liste de symboles de réussite dont ils estiment avoir besoin pour se sentir fiers d'eux. Ces hommes-là achètent également des grosses voitures qu'ils ne savent pas conduire, s'endettent pour des maisons dans lesquelles ils ne rangent rien et font aussi des enfants dont ils ne s'occupent jamais. Mais tous ces éléments leur renvoient une image d'eux-mêmes qui les valorise. Ils peuvent ensuite se pavaner, même s'ils n'assument rien. Ils se fichent éperdument de savoir si leur femme, leur maison ou leur enfant sont heureux ou malheureux. Parfois, les hommes sont bizarres. Mélanie dit que ce n'est pas le cas de Théo. Lui et Vanessa s'entendent vraiment bien. Ils ne se marient pas pour faire croire aux autres, mais pour le vivre à deux. J'aime bien l'idée. Je regrette d'autant plus qu'elle risque de crever à la première piqûre de bestiole. Ou alors, il faut qu'elle garde son filet de protection, même sous la douche, ou quand elle fait de la plongée. J'aperçois Antonin qui vient du parc et monte rapidement les marches. Il porte une fleur sur sa veste. C'est une bonne idée pour se dissimuler dans les plates-bandes, mais il devrait en mettre vraiment beaucoup plus pour que ce soit efficace. Laura, tu es là, je te cherche partout. Les mariés vont dire un petit mot et ils voudraient t'avoir à leur côté. Il me tend la main, je la saisis pour sauter au bas de ma balustrade. J'aide la petite sangsue, qui copie tout, à descendre à son tour. Ses jolies tresses sont à moitié défaites et sa robe est couverte de terre. Vous allez voir qu'on va encore me coller ça sur le dos. Ce n'est pas juste, personne ne l'obligeait à me suivre lorsque j'ai rampé dans les buissons pour aller enterrer mes bonbons comme un écureuil. J'espère que je ne vais pas oublier l'emplacement. Sinon, je vais mourir de faim dès que l'hiver reviendra. On ne se rend pas compte à quel point la mémoire est essentielle avant de la perdre. Vanessa et Théo se tiennent debout face à l'assemblée, une flûte de champagne à la main. Moi, je n'ai pas le droit au champagne. D'abord parce que je croyais qu'une flûte était un instrument de musique, et puis parce que tout le monde est tombé d'accord sur le fait que l'alcool me rend incontrôlable. Ce qui semble les terrifier. Tant pis, je vais trinquer avec un morceau de biscotte. D'ailleurs, ça s'appelle « porter un toast ». Pas grave s'il est beurré. Mon frère et ma très belle-sœur forment un couple qui a de l'allure. Je veux bien que ce château soit le leur pour qu'ils y vivent heureux. Je dois pouvoir les y aider, même si j'ai fini par accepter l'idée que je ne parlais pas aux dieux, puisqu'il n'existe pas de bal des facteurs. Lucie dit que si Théo et Vanessa font des petits, elle aimerait bien qu'ils lui en gardent un. Moi aussi. Je l'appellerai Philibert et je lui donnerai toute la salade qu'il voudra. On me fait signe de me placer en bout de table, mais je ne veux pas. Je sais ce qu'il y a sous la nappe, on ne me la fait pas. Je ne suis peut-être pas la fille de Zeus, mais je ne suis pas non plus un boulon de chaudière. Théo lève la main doucement et tout le monde se tait. J'aimerais bien avoir ce super pouvoir-là. Bonsoir. La fête est loin d'être terminée, mais nous tenons déjà à vous témoigner notre gratitude. À vous toutes et vous tous, un immense merci pour votre présence et votre amour. Notre bonheur ne serait pas complet si vous n'étiez pas là. Nos deux familles se mélangent enfin et Vanessa et moi sommes heureux d'en être le trait d'union. Les gens applaudissent. Il y en a même qui pleurent. Ce sont les bébés. Théo continue à parler. Vanessa s'exprime aussi. Et j'ai du mal à saisir le sens de tous leurs propos, mais je les observe avec attention. Leur poitrine se gonfle de spasmes, comme lorsqu'on reçoit un beau cadeau ou que l'on est tombé en se faisant mal au genou. Ils sourient, ils rient, leurs yeux brillent. Les invités réagissent, ils rient aussi. Certains sifflent et commentent. Même si je ne comprends pas tout, je perçois précisément ce que ces gens ressentent. Il est probable que, bien que ne m'en souvenant plus, j'ai déjà assisté à d'autres mariages. Peu importe. Celui-là me fait un effet particulier. Quelque chose de très important m'apparaît clairement. Les gens aiment ressentir ensemble. Ils sont bien quand ils se disent qu'ils s'aiment, surtout en présence de jeunes qui s'unissent pour s'aimer aussi. Ce sentiment-là me plaît. Je n'ai pas toute ma tête, mais je sais que me sentir proche des autres, les voir heureux, est ce qui me tente le plus dans cette vie. Avec les bonbons, bien évidemment. Je n'ai pas encore récupéré une perception globale de ma vie, mais si je fais un bilan immédiat, je m'aperçois que j'ai déjà deux frères, plus Vanessa, plus Mélanie, qui a un rire de chèvre. J'ai aussi un animal de compagnie qui s'appelle Pépita et qui a peur des poissons morts empilés sur le buffet des grands. J'ai également une garde du corps qui gronde les objets quand ils ne s'allument pas. Il faudrait être cinglée pour désirer davantage. J'ai tout pour être heureuse. Théo poursuit. C'est avec une émotion particulière que je me réjouis de la présence de mon papa, accompagné de Viviane, que j'embrasse. J'embrasse même mon épouvantable frangin, qui a scandaleusement soudoyé tout le monde pour découvrir où nous allions dormir afin de s'incruster lors de notre premier matin de couple. Et que dire de ma sœur adorée, infatigable protectrice et alliée, sauf depuis quelques semaines. Ces récentes mésaventures, après nous avoir fait très peur, auront émaillé cette journée de souvenirs inoubliables dans lesquels plusieurs d'entre nous ont marché.
La foule explose d'un rire qui fait le bruit d'une avalanche. Ils se moquent encore de moi? Ils vont me le payer. Je sais où trouver les poules. Tant pis si je dois m'endetter pour acheter des tonnes de chantilly, des dizaines de bonnets qui grattent et des tonneaux. J'irai à la banque pour demander un crédit. »
Théo se tourne vers moi.
« À toi, chère Laura. Sans qui notre famille n'en serait pas une. Sans qui je n'aurais pas rencontré Vanessa. Sans qui, aujourd'hui, nous n'aurions pas cette vie. »
Il m'ouvre ses bras, Vanessa aussi. Je me glisse entre les convives qui applaudissent. Si je n'étais pas aussi émue, je m'apercevrais sans doute qu'il s'agit d'une ovation royale. Je rejoins ceux qui constituent ma famille de cœur ensanglanté ou de sang écœuré, je ne sais plus. La salle applaudit et hurle à tout rompre. C'est une longue étreinte qui me fait un bien fou. Ce genre d'émotion vous rend meilleur. Emportée par ce torrent d'affection, je me précipite ensuite au cou de ceux que je pense être mes parents. Même s'ils m'accueillent chaleureusement, je les sens quand même un peu gênés. C'est supposé être un beau moment et pourtant quelque chose cloche. Alors que j'enlace celui que j'ai imaginé comme mon papa, par-dessus son épaule, je capte le regard d'un autre homme, plus petit, plus âgé, et que j'ai eu de nombreuses occasions de remarquer aujourd'hui parce qu'il ne me lâchait pas des yeux. Au milieu de cet océan de joie et d'amour qui emplit la salle, il me fixe avec une profonde tristesse. Son regard me bouleverse et fait exploser les tonnes d'éboulis qui obstruaient l'une des grottes de ma mémoire. Tellement de choses me reviennent tout à coup. Papa. La semaine dernière, on m'a déjà dit que grandir n'était pas simple. Le fait est que ce souvenir non plus.